Chapitre 24. Il faut apprendre à donner de votre absence à ceux qui n'ont pas compris l'importance de votre présence. La mort ne prend pas de temps de pause. Elle ne connaît ni les grandes vacances, ni les jours fériés, ni les rendez-vous chez le dentiste. Les heures creuses, les périodes de grand départ, l'autoroute du soleil, les 35 heures, les congés payés, les fêtes de fin d'année, le bonheur, la jeunesse, l'insouciance, le beau temps, tout cela, elle s'en fiche. Elle est là, partout, tout le temps. Personne n'y pense vraiment, sinon on devient fou. Elle est comme un chien qui slalomerait dans nos jambes en permanence, mais dont on ne s'aperçoit de la présence que le jour où il nous mord, ou pire, où il mord un proche. Il y a un cénotaphe dans mon cimetière. Il se trouve à l'étroit, carré des cèdres. Un cénotaphe, c'est un édifice mortuaire monté sur du vide. Un vide laissé par un défunt disparu en mer, en montagne, en avion ou dans une catastrophe naturelle. Un vivant qui s'est volatilisé, mais dont la mort semble indéniable. Le cénotaphe de Brancion n'a plus de plaque. Il est très ancien et je n'ai jamais su à la mémoire de qui il avait été élevé. Hier, par hasard, Jacques Luccini m'a appris qu'il avait été érigé en 1967 pour un jeune couple disparu en montagne. Avant de remonter dans son fourgon mortuaire, Jacques m'a dit « Des jeunes qui faisaient de l'escalade, ils auraient dévissé. » J'entends souvent « Perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de pire. » Mais j'entends dire aussi que le pire, c'est de ne pas savoir. Qu'il y a plus effroyable qu'une tombe. Il y a le visage d'un disparu placardé sur des poteaux, des murs, des vitrines, des journaux, un écran de télévision. Des photos qui vieillissent, mais jamais le visage qu'elles représentent. Qu'il y a plus terrible qu'un enterrement. Il y a la date anniversaire de la disparition, le journal télévisé, le lâcher de ballon, la marche blanche et silencieuse. À quelques kilomètres de Brancion, un enfant s'est volatilisé il y a 30 ans. Sa mère, Camille Laforêt, vient au cimetière chaque semaine. La mairie lui a exceptionnellement cédé une concession sur laquelle elle a eu droit d'inscrire le nom de son fils disparu, Denis Laforêt. Rien ne prouve que Denis soit mort. Il avait 11 ans quand il s'est volatilisé entre sa salle de classe et l'arrêt de bus situé en face de son collège. Denis a quitté les cours une heure plus tôt que ses copains. Il devait aller en études. Et puis, plus rien. Sa mère l'a cherché partout. La police aussi. Chaque famille de la région connaît le visage de Denis. C'est le disparu de 1985. Camille Laforêt m'a souvent dit que le nom de Denis, inscrit sur cette fausse tombe, lui avait sauvé la vie. Que ce nom gravé dans le marbre la retenait entre le possible et l'impossible. Celui d'imaginer qu'il serait encore en vie, quelque part, seul, sans amour, en souffrance. Et chaque fois qu'elle pousse ma porte, qu'elle s'assied à ma table, qu'elle boit un café, qu'elle me dit « Comment ça va, Violette ?» Elle ajoute « Il y a pire que la mort, qu'il y a la disparition. » Moi, je m'étais vraiment habituée à la disparition de Philippe Toussaint. Je n'aurais jamais voulu savoir. J'ouvre l'enveloppe contenant le discours que Julien seul a écrit pour sa mère. Celui qu'il lira le jour où il finira par accepter de déposer ses cendres sur la tombe de Gabriel Prudent. Maudite rencontre que celle de ces deux-là. Si Irène Fayol n'avait pas rencontré Gabriel Prudent, jamais Julien seul n'aurait mis les pieds dans mon cimetière. Irène Fayol était ma mère. Elle sentait bon. Elle se parfumait à l'heure bleue. Bien que née à Marseille le 27 avril 1941, elle n'a jamais eu l'accent du midi. Elle n'avait pas le sud dans les gènes. Elle était réservée, distante, parlait peu. Elle a toujours préféré le froid à la chaleur, les ciels bouchés au soleil. Même son physique la révoquait. Elle avait le teint pâle, des taches de rousseur et les cheveux blonds. Elle aimait le beige. Je ne l'ai jamais vue porter de vêtements colorés ni de nu-pieds, sauf une robe jaune sur un cliché de vacances en Suède avant ma naissance. Un vêtement comme une erreur de parcours. Elle aimait l'été anglais. Elle aimait la neige, Elle la prenait en photo. Sur les albums de famille, il n'y a que des photos prises sous la neige. Elle souriait peu. Elle était souvent perdue dans ses pensées. En épousant mon père, elle est devenue Madame Seule. Comme elle avait le sentiment de faire une faute d'orthographe en l'écrivant, elle a gardé son nom de jeune fille. Elle n'a eu qu'un enfant, moi. Je me suis longtemps demandé si c'était à cause de moi ou de notre nom de famille que mes parents n'avaient plus eu envie de se reproduire. Elle a d'abord été coiffeuse, puis elle est devenue horticultrice. Elle a créé différentes variétés de roses qui ne craignent pas l'hiver, des roses à son image. Un jour, elle m'a dit qu'elle aimait vendre des fleurs, même si elles étaient destinées à embellir des tombes, qu'une rose était une rose, et qu'elle soit destinée à un mariage ou à un cimetière n'avait aucune importance, que sur toutes les vitrines des fleuristes, il était écrit « mariage » et « deuil », que l'un n'allait pas sans l'autre. Je ne sais pas si elle pensait à l'inconnu avec lequel elle a choisi de reposer pour l'éternité le jour où elle m'a dit cela. Je respecte son choix, comme elle a toujours respecté les miens. Repose en paix, chère maman.